Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Boussouma, voici le sommaire. Nouveaux affrontements ce samedi sur différents axes dans le Massissi et Rutshuru au Nord Kivu. À Mueso notamment, la situation demeure tendue et confuse, rapporte des sources sur place. Du coup, plusieurs agents des ONG humanitaires, internationales et locales ont dû abandonner la zone. Ituri, lancement hier à Bunia de la campagne de vaccination pour la prévention contre Ebola. En effet, le virus Ebola n'est pas encore éradiqué et constitue un danger permanent pour la population, explique la division provinciale de la santé en Ituri. Et puis, au Nord Kivu, le comité international de la Croix-Rouge, CICR, s'est dit très préoccupé par l'impact des combats sur les populations civiles à Mueso, allusion faite au bombardement ayant tué 19 personnes le jeudi dernier. Pour en parler, nous recevons la chef de la sous-délégation du CICR à Goma. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Des affrontements sont rapportés ce samedi 27 janvier sur les différents axes dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. C'est notamment dans la cité de Mueso, après une journée d'accalmie relative précédée par des tueries des civils, dont les enfants, et d'importants dégâts matériels causés par des bombardements. Des affrontements sont également signalés à Karuba et Mushaki dans la chefferie de Baoundé et aussi à Boutale et Kibashiro Monastère dans la chefferie de Bachali. D'autres détails avec Sifa Maguru.
Toutes nos sources sont unanimes. La situation demeure tendue et confuse à Mueso. Des violents combats sont enregistrés en Mbuhi, Bukama et Boutale, tout autour de Mueso. Cette situation a conduit plusieurs acteurs locaux à abandonner ces milieux. C'est le cas notamment des agents des ONG humanitaires internationales et locales qui interviennent dans la zone. D'autres ont réduit sensiblement leur personnel sur place. Il est difficile de rester à Mueso. On a résisté, mais les choses deviennent très difficiles, raison pour laquelle nous jugeons bon d'abandonner la zone en attendant le rétablissement de la paix et la sécurité, témoigne un agent humanitaire joint par Radio Kapi ce samedi matin. Sur l'axe Karuba-Mushaki, des combats se concentrent à Bushuhe et aux antennes. La situation est identique à Kabati, sur l'axe Kilolirwe. Selon nos sources, plusieurs véhicules seraient bloqués depuis ce matin au niveau d'un touro à Kilolirwe. Des détonations d'armes lourdes sont également entendues dans la chefferie de Bachali et Kiahemba dans la chefferie de Bwito, rapportent nos sources. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. La mairie de Goma a présenté hier vendredi devant la presse 11 motards et 2 policiers ainsi que leur moto. C'était en présence du procureur de la République. 11 motards, en complicité avec ces 2 policiers, ont été interceptés dans la nuit de jeudi à hier vendredi par les services de sécurité. Il s'agit des récalcitrants ayant défié la mesure d'interdiction de circulation des motos au-delà de 18 heures locales, mesure prise par le gouverneur militaire il y a plus de 2 semaines pour lutter contre la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Goma. Reportage de Bernardine Diambo.
Devant la presse, ces taximens moto ainsi que les 2 policiers ont été déférés devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Ainsi a signifié le commissaire supérieur principal, le colonel Foster Kapend Kamand.
La nuit, son excellence monsieur le gouverneur, nous avons planifié une opération pour appréhender les récidivistes. Sur son instruction ferme, nous déférons des 11 civils motards et leurs engins que vous aurez à identifier pour les parquets, que la justice fasse son travail.
Le procureur de la République de Goma a promis son accompagnement aux autorités compétentes tout en rassurant l'autorité urbaine de faire respecter la loi dans toute sa rigueur. Paluku Kitambala Pascal.
Nous sommes tous informés de tout ce qui se passe dans la ville de Goma sur le plan sécuritaire. La population s'est toujours plainte par rapport à la sécurité de la ville et aujourd'hui vous venez de montrer de quoi vous êtes capable et nous vous rassurons et nous allons vous appuyer et nous allons faire respecter la loi dans toute sa rigueur.
Il faut noter que l'autorité urbaine de Goma a demandé à la population de garder son mal en patience car selon lui, cette mesure sera d'abord évaluée pendant 1 ou 2 mois avant d'être levée. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours, les creuseurs du site minier de Botambisi dénoncent les tracasseries dont ils sont victimes de la part des miliciens Maïmaï qui écument les zones minières dans cette partie du territoire de Lubero. Dans une lettre adressée jeudi à l'administrateur de territoire et dont une copie a été réservée à la société civile de Mangourejipa, ces creuseurs d'or dénoncent notamment les barrières illégales ainsi que les travaux auxquels ces miliciens les soumettent. Ils demandent aux autorités de mettre fin à cette situation qui risque de les paupériser davantage. Samuel Kakoulé, président de la société civile de Mangourejipa, s'est fait le porte-parole de ces creuseurs artisanaux. Il a été joint par Guylaine Kassassia.
La société civile Force Vive du secteur de Bapère vient d'accuser réception de la lettre des creuseurs du site Botambisi adressée à l'administrateur des territoires de Lubero. Selon l'esprit de cette lettre qui dénonce les tortures corporelles, les travaux forcés, les barrières illégaux et des amendes exorbitantes, la multiplicité des taxes, les violations graves de droits humains, des menaces de mort et d'autres actes contraire à la loi. Tous ces actes sont causés par, selon l'esprit de cette lettre, les Ouazalendo, les MDC rénovés. La société civile appelle les autorités à trouver solution à cette situation qui met à danger la vie de la population qui a droit à une protection mais qui traverse une vie de misère. Les autorités doivent savoir que le secteur de Bapère n'a pas d'ennemi qui peut laisser à ce que les groupes armés restent dans cette entité pour tracasser uniquement la paisible population. Et cette structure citoyenne s'inquiète de la façon dont les autorités sont en train de traiter cette situation avec légèreté.
Tous nos efforts pour joindre l'administrateur de Lubero, le colonel Alain Kikewa, n'ont pas abouti. Province du Sud Kivu, naufrage d'une pirogue motorisée hier en début de soirée sur le lac Kivu au large de Karulo à Idjunor. Bilan, 3 passagers morts et le conducteur de la pirogue porté disparu d'après des témoins. Le chargé des opérations à la force navale à Bukavu qui livre l'information renseigne que la pirogue en provenance de Bukavu vers Bugarula serait surchargée. Il parle de 20 sacs de ciment en plus des passagers dont le nombre reste inconnu. La force navale dit attendre d'amples précisions. Décision de la DGM, Direction Générale des Migrations, qui fournira les détails dans la possibilité que l'armateur de l'embarcation était en possession du manifeste de navigation sur le lac. Province du Haut-Katanga, la division provinciale des actions humanitaires tire la sonnette d'alarme. Plusieurs ménages des quartiers Brondo dans la commune Kenya Lubumbashi se retrouvent sans abri. Leurs maisons situées le long de la rivière Lubumbashi sont inondées. Le chargé des catastrophes et urgences humanitaires à cette division donne ici d'amples détails. Lazare Kingombe Farai est au micro de Jean Gandou.
Des fortes pluies qui se sont abattues à travers le Lubumbashi, ça a causé beaucoup de dégâts énormes en pertes matérielles. Mais il y a eu des gens qui se sont déplacés pour le moment. Il y a des cris. Il y a ceux-là qui commencent à regagner des maisons, mais généralement, ce qui concerne le quartier Brondo, dans la commune Kenya, c'est là où il y a des gens qui ont déménagé complètement leurs maisons. Jusqu'à l'heure que je vous parle, les maisons sont toujours dans l'eau et cette situation nécessite, en fait, une intervention des autorités compétentes. Cette situation ne permet pas ce que les gens vivent correctement. Je lance l'appel aux autorités de penser par rapport à cette population qui vit à proximité de la rivière de Lubumbashi, notamment celle du quartier Brondo, dans la mesure où il y a moyen de penser autrement pour qu'ils soient délocalisés par cette situation récurrente à chaque période de pluvieuse. Actuellement, c'est environ 900 ménages et ces gens sont en errance. D'autres se casent dans des familles voisines, mais la situation reste toujours à désirer.
Je vous le disais en titre, en Ituri, la campagne de vaccination pour la prévention contre la maladie à virus Ebola a été lancée hier vendredi dans la zone de santé de Bunia. Selon la division provinciale de la santé, le virus Ebola n'est pas encore éradiqué et constitue un danger permanent pour la population. Parmi les personnes cibles, il y a notamment le personnel soignant, les éléments des forces de l'ordre et les taximens qui sont en contact avec toutes les couches sociales, rapportent des sources médicales. Reportage de Dieu Merci Bokota.
La province de l'Ituri constitue une zone à risque de la maladie à virus Ebola, déclare le facilitateur national pour cette campagne venue de Kinshasa. Il précise que 500 vesicats ont été enregistrés dans cette province, dont 276 décès qui représentent la moitié des patients, ce qui est énorme. Dr Charles ajoute que cette maladie n'est pas éradiquée même si les malades sont guéris. Elle peut ressurgir à tout moment. D'où l'intérêt pour la population de se faire vacciner pour la prévention contre cette maladie.
Nous sommes dans une zone à risque pour la maladie à virus Ebola. C'est une zone où il y a eu plusieurs épidémies et ces épidémies nous ont laissé les malades guéris, constituent pour nous un risque de régurgescence de la maladie à virus Ebola. Alors nous devons nous protéger.
Le programme élargi de vaccination indique que les personnes à risque sont surtout les personnels soignants, les taximens et les militaires qui, dans leurs activités, entrent en contact avec toute catégorie de gens. Un agent de ce bureau dans la zone de santé de Bounia indique que le vaccin contre Ebola est disponible dans tous les aires de santé. Il invite la population à se faire vacciner volontairement.
Nous avons besoin des gens de première ligne, les personnels soignants, les militaires, les taximens, pour se faire protéger contre cette maladie parce qu'on n'a pas encore éradiqué cette maladie-là. Faisons-nous vacciner.
Bounia, Dieu merci beaucoup, Radio Okapi.
Et puis, la ville de Beni n'a pas besoin de manifestations des rues et des violences pour revendiquer la victoire aux élections. Cet appel de la coordination urbaine de la société civile est lancé aux candidats malheureux aux dernières élections législatives nationales et provinciales. Selon Pépin Kavota, président de cette structure, certains candidats et états-majors des partis politiques choisissent la rue pour revendiquer leur supposée victoire. Pépin Kavota les invite à s'adresser aux cours et tribunaux habilités à statuer sur les contentieux électoraux. Il le dit au micro d'André Kitenge.
Les gens qui sont en train de s'adonner à des mouvements de masse, nous sommes déjà un état de droit, nous sommes déjà au quatrième cycle électoral. Ces voix qui commencent à reprendre, je ne pense pas que ça peut donner une solution. Ici, nous sommes en train de le dire, parce que nous l'avons déjà dit. Lorsque vous pensez que vos voix ont été attribuées à un autre candidat, il est un bon moment de rassembler tous les éléments de preuve et entreprendre une procédure judiciaire. Parce que dans la rue, on n'a pas de greffiers, dans la rue, on n'a pas de magistrats. Dans la rue, on n'a pas de juges. Les magistrats et les greffiers se trouvent dans des institutions qu'on appelle d'ailleurs le troisième pouvoir. C'est la justice qui est indépendante que nous devons, nous tous, nous confier pour que l'on ait gain de cause. Mais si nous commençons à barricader les routes, je ne pense pas qu'on aura gain de cause. Tous les mécontents ou mécontentes devraient entamer la procédure judiciaire. Je les appelle donc à ne pas s'adonner à des mouvements de la rue. Les manifestations de rue ne servent à rien.
Dans l'actualité aussi, commémoration le 26 janvier de la Journée internationale de la douane, thème de cette année pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour des objectifs clairs. À cette occasion, la cellule d'innovation pour le changement des mentalités a présenté et distribué des hyperguides de l'agent des douanes. Ce manuel est constitué des textes de base qui organisent la profession et l'activité de la douane et qui se veut d'asseoir la déontologie, les bonnes pratiques et les valeurs d'éthique dans le cadre de la prévention, la lutte contre les antivaleurs et la corruption. Écoutez à ce propos le directeur général des douanes et assises, Bérard Kabessé, au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
La douane est certes un métier technique, mais l'expression de ce métier technique doit être assise sur l'éthique. Les personnes qui travaillent à la douane, à quelque titre que ce soit, ils sont en contact avec les opérateurs économiques, en contact avec les usagers de la douane. Mais le travail qui doit être fait dans un esprit d'éthique, dans le respect des règles de base de la déontologie, dans le respect du code de conduite, et c'est tout le mérite de la cellule d'innovation pour le changement de mentalité qui nous a accompagnés depuis une année dans des séances de vulgarisation pour que le regard que les gens ont vis-à-vis des deniers publics, du trésor public, soit fait un regard de professionnalisme, de technicité, mais également d'éthique. Et donc, de ce point de vue, ça ne pouvait pas mieux tomber que l'on puisse faire coïncider la distribution de ces hyperguides avec la Journée internationale de la douane qui a lieu tous les 26 janvier de chaque année sur le plan planétaire.
Rendons-nous dans la province du Bas-Ouélé. Plus de 300 chefs d'établissement de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique du territoire de Poco participent depuis hier à une session de renforcement des capacités. Ces assises de 3 jours sont organisées par le chef de la sous-division de l'EPST Poco. Mais qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ces assises, Jacques Moukonkolé?
Ces assises interviennent au terme de différentes missions d'itinérance organisées par le chef de la sous-division de l'EPST POCO, 6 mois après sa prise de fonction. Au total, 52 missions selon Floribert Abadipone. Toujours selon lui, il a constaté plusieurs faiblesses dans le chef de la plupart de ses collaborateurs. Voilà qui motive la tenue de cette conférence des chefs d'établissement de son ressort. Parmi les thèmes abordés figurent notamment l'amélioration de la qualité des enseignements, le fonctionnement des organes de gestion d'une école, la problématique de l'exploitation des manuels scolaires, l'établissement d'un procès verbal d'une action disciplinaire, ainsi que la responsabilité d'un enseignant devant Dieu et devant les hommes font également l'objet des exposés des orateurs. Floribert Abadipone, sous-préfet de POCO, exprime ses attentes à la fin de cette conférence.
Nous entendons que nos chefs d'établissement auront la capacité de bien gérer leurs écoles, de faire une bonne gestion administrative, une bonne gestion pédagogique, une bonne gestion financière, être leadership dans son école, et cela va nous amener à améliorer la qualité de notre enseignement.
Les rideaux de cette rencontre vont tomber ce samedi dans l'après-midi à POCO. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Algérie dit avoir pris connaissance avec beaucoup de regret de la décision du Mali de mettre fin avec effet immédiat à l'accord d'Alger signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord du pays. L'accord qui était considéré comme vital pour la stabilisation du pays a été un point de discorde ces dernières années. La junte a invoqué le changement de posture de certains groupes signataires et les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord par les autorités algériennes pour justifier cette rupture. Bamako accuse également l'Algérie d'abriter les bureaux de certains groupes signataires qui se sont transformés en acteurs terroristes. La fin de l'accord d'Alger s'inscrit dans une série de ruptures initiées par les militaires qui ont pris le pouvoir en 2020. La junte a rompu des liens de longue date avec la France et ses partenaires européens et s'est tournée vers la Russie, obligeant la MINUSMA à partir.
L'invité.
Il nous vient du Nord Kivu. Le comité international de la Croix-Rouge, CICR, s'est dit très préoccupé par l'impact des combats sur les populations civiles à Mouesso, dans cette cité du territoire de Massissi. Un engin explosif a touché jeudi une maison qui abritait des civils, tuant certains et blessant plusieurs autres. La chef de la sous-délégation du CICR à Goma invite les belligérants au respect du droit international humanitaire en évitant les affrontements dans les zones densément peuplées. Anne-Sylvie Linder est notre invitée. Elle s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Anne-Sylvie Linder, bonjour.
Oui, bonjour Rosalie et bonjour à vos auditeurs.
Depuis 3 jours, il y a des affrontements dans et autour de la cité des Mouesso. Jeudi, un bombardement a fait plusieurs victimes au sein de la population qui recommande les droits internationaux humanitaires dans les zones habitées où il y a les affrontements.
Alors, oui, effectivement, depuis plusieurs jours, on enregistre des combats dans et autour de la ville de Mouesso. Ces combats, ils ont engendré en fait des blessés et des morts parmi les civils. En date de jeudi, il y a effectivement un engin qui aurait atterri sur une maison civile, tuant et blessant plusieurs personnes parmi les civils. Il y a aussi apparemment des combats qui auraient eu lieu près de l'hôpital et près de la paroisse. Le CCR est très préoccupé par cette situation et rappelle à toutes les parties qu'ils doivent éviter de mener des affrontements dans des zones densément peuplées, comme c'est le cas de Mouesso, de manière à absolument éviter des dommages au niveau des pertes humaines et au niveau aussi des biens civils.
Sur terrain, dans les territoires des Massissi, certaines sources affirment que des combattants se cachent au sein de la population pour éviter d'être directement ciblés. Que dit les droits internationaux humanitaires aussi à ces sujets?
Alors le CICR rappelle que toutes les parties ont l'obligation de prendre ce qu'on appelle toutes les précautions possibles afin d'éviter ce dont je parlais maintenant, qui sont les affectations de personnes civiles ou de biens civils. En fait, il y a 3 principes. Les 3 principes dont on parle lors d'affrontements armés, c'est le respect de la précaution, donc justement de faire attention à ce que les civils ne soient pas touchés, la proportionnalité et aussi la distinction, c'est-à-dire en tout temps de faire la distinction et de pouvoir faire la distinction entre les civils et les combattants. Comme tu le sais, ce rappel il est fait constamment de la part du CSR et de manière confidentielle et bilatérale aux porteurs d'armes. Et on voilà, rappelle constamment que ces règles doivent être appliquées lors d'affrontements armés. Mais il faudrait absolument que les parties essayent d'éviter d'avoir des affrontements au niveau de villes comme Ouesso, afin d'éviter justement qu'il y ait des dommages comme ceux subis hier par la population civile.
Et en parlant de ce rappel du droit international humanitaire, l'année dernière, vous avez eu des activités dans ces sens au Nord Kivu avec les différents belligérants.
C'est une action qui est comprise dans toutes nos activités. C'est quelque chose qu'on fait de manière constante et avec tous les porteurs d'armes. C'est un dialogue dont on ne parle pas parce qu'il est bilatéral et confidentiel. Il cherche avant tout à prévenir d'autres incidents tels que ceux qui se sont passés hier à Ouesso.
Et à l'intention d'une population qui se retrouve au milieu des feux, qu'est-ce qu'elle peut aussi faire pour se protéger?
Je crois qu'il y a pas mal d'entre elles qui s'est protégée autour de l'hôpital. D'après les informations que j'ai reçues de la part de MSF, justement, pas mal de gens se sont réfugiés dans l'enclos de l'hôpital. Aujourd'hui, apparemment, ces gens, dans leur grande partie, sont sortis de la ville de Ouesso de manière à préserver leur vie et leur intégrité. C'est-à-dire aussi à cette population que pour le moment, il n'y a pas les conditions sécuritaires pour qu'on puisse, leur venir en aide, mais que dès que ces conditions sécuritaires seront rétablies, nous acheminerons vers Ouesso et ses environs pour voir un petit peu faire une évaluation des besoins de ces communautés.
Anne-Sylvie Linder, je rappelle que vous êtes chef des sous-délégations du CICR à Goma. Merci.
Merci à vous.
Notre invité répondait aux questions de Rosalie Zawadi. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta. À la mise en onde, Alain Ngoy et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci d'avoir été des nôtres.